Bonjour Jean-Jacques Bridet.
Bonjour Frédéric Rivière.
Et on va parler de ces universités d'été de la Défense qui se tiennent donc aujourd'hui et demain à Satory dans les Yvelines. C'est une occasion annuelle de rencontres et d'échanges entre les responsables politiques et les militaires. Peut-on dire tout d'abord que l'apaisement est revenu au sein des armées après la crise entre le président de la République et son chef d'état-major de l'époque, Pierre de Villiers?
Alors d'abord, c'est un rendez-vous annuel très important. Vous avez cité les militaires, oui. Les responsables politiques, mais il y a aussi les industriels, il y a aussi beaucoup de journalistes. Et puis nous avons beaucoup de partenaires européens, puisque nous avons, j'attends une quinzaine de mes homologues ou responsables des commissions de défense et de sécurité.
Il y aura notamment la ministre allemande de la défense et la ministre italienne de la défense qui participent.
La ministre italienne de la défense. Les universités ont commencé hier soir par un dîner qui réunit justement toutes les délégations internationales. Et nous avions la ministre allemande et la ministre française des armées qui étaient là, qui ont pu s'exprimer sur un des sujets importants qui est l'autonomie stratégique européenne que nous voulons construire. C'est la volonté en tout cas de la France et de l'Allemagne. Nous allons convaincre tous nos partenaires, y compris la Grande-Bretagne, pour rentrer dans cette discussion, dans cet approfondissement. Il n'y aura pas d'Europe de la défense, il n'y a pas justement une certaine autonomie stratégique européenne. Il faut convaincre, je sais que c'est un thème central, nous les Français nous la connaissons, puisque nous avons nous-mêmes une autonomie stratégique française, mais il faut convaincre certains pays, et j'ai déjà commencé à engager des discussions avec des pays soit de l'Europe centrale, soit de l'Europe du Nord, qui sont les plus réticents par rapport à ce concept d'autonomie stratégique européenne.
Alors, puisque vous évoquez l'Allemagne, j'avais prévu de vous en parler plus tard, mais venons-y, puisqu'en fait, au cours de l'été, le quotidien allemand Die Welt a posé cette question à la une, l'Allemagne doit-elle se doter de l'arme nucléaire? Or, un certain nombre d'experts, apparemment assez reconnus pour leur professionnalisme en Allemagne, mais aussi des responsables politiques, ont répondu très clairement oui, qu'il le fallait, que cela rendrait l'Europe plus puissante. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de sérieux?
Alors, moi, je ne vais pas commenter les déclarations des experts, quels qu'ils soient.
Non, je vous interroge sur l'opportunité que l'Allemagne se dote de l'arme nucléaire.
J'écoute la position des ministres et du gouvernement allemand actuel. Ouais. Vous auriez pu citer la tribune que le ministre allemand des Affaires étrangères a écrit fin août, qui est une tribune publique, appelant à la création d'une Europe souveraine, de relations équilibrées transatlantiques et la création d'une alliance du multilatéralisme. C'est une position très intéressante qui est en forte évolution et c'est une position qui rejoint celle de notre pays. Donc je me réjouis, c'est ce que j'ai dit hier soir, et il faut qu'on travaille une Europe souveraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où va cette souveraineté? Vous avez apporté la question de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, en Europe, il y a deux pays qui détiennent cette arme nucléaire, la Grande-Bretagne et la France. On verra comment, une fois que le Brexit sera réglé, ou en tout cas, quand la Grande-Bretagne sera sortie de l'Union européenne, mais non pas de l'Europe, puisqu'elle est géographiquement, elle est en Europe, comment nous réglerons cette relation nucléaire entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Union européenne. Donc nous avons deux puissances nucléaires qui appartiennent toutes les deux à l'OTAN. Donc il est intéressant de regarder comment mettre au service de la défense de l'Europe, au service de la défense des autres pays européens dans le cadre de l'Union européenne, ces armes nucléaires.
Aujourd'hui, la communauté internationale, qui est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais enfin on voit à peu près de quoi on parle, les États-Unis en particulier, interdisent à un certain nombre d'États de se doter de l'arme nucléaire. Une puissance occidentale comme l'Allemagne pourrait, si elle le décidait, se doter de l'arme nucléaire sans s'attirer les foudres de la communauté internationale?
Il y a des traités internationaux, la France les a ratifiés, la France en est souvent, parfois d'ailleurs les promoteurs, je pense qu'il faut les faire respecter. Je ne vois pas la nécessité aujourd'hui que d'autres puissances dans le monde, y compris en Europe, se dote d'armes nucléaires.
La Russie va organiser cette semaine, à partir de demain, ses plus importantes manœuvres militaires depuis la fin de la guerre froide. 300 000 soldats, 36 000 véhicules militaires, 1000 avions, 80 navires seront impliqués dans ces manœuvres. Quel sens vous donnez à ces opérations?
Depuis quelques années, nous sommes devant une situation de retour de la force en tout cas de la notion de force par les Russes. Et nous le constatons tous les jours. Tous les jours, il y a des sous-marins qui circulent dans la Méditerranée. Vendredi dernier, notre ministre des Armées, Florence Parly, dans un discours consacré à la politique spatiale de la France, a dit clairement qu'il y a quelques mois, un satellite russe espion s'était positionné pas loin d'un de nos
d'un satellite franco-italien, je crois.
D'un satellite franco-italien, en tout cas européen, pour l'espionner. Bon, on a pris des mesures pour qu'il soit éloigné. Donc ça veut dire que voilà,
L'espionnage, c'est ordinaire. Tout le monde s'espionne à longueur de temps, non?
Non. Aujourd'hui, l'espace a toujours été considéré comme un espace, c'est le cas de le dire, tout à fait neutre et non militarisé.
Un sanctuaire où on ne
aujourd'hui,
s'espionne pas.
Aujourd'hui, c'est remis en cause et par la Chine et par la Russie. Ouais. Et les Américains ont annoncé qu'ils allaient militariser l'espace. Il faut prendre cette donne. Nous devons suivre non pas une militarisation de l'espace pour attaquer, mais en tout cas faire en sorte que nos satellites français et européens puissent faire leur travail, conduire leur mission en toute sécurité, puissent être protégés.
Il nous reste deux petites minutes, Jean-Jacques Bridet. Je voudrais qu'on évoque l'actualité plus politique. Vous êtes président de commission à l'Assemblée nationale. Vous savez évidemment qu'aujourd'hui va être désigné celui qui sera le candidat de La République En Marche pour la présidence de l'Assemblée nationale, pour succéder à François de Rugy. Pensez-vous que le moment soit venu qu'une femme préside l'Assemblée nationale, ou cette question homme-femme pour le perchoir n'a-t-elle à vos yeux aucune importance?
Je ne sais pas s'il y a un moment pour qu'une femme accède au perchoir, comme on dit. Nous avons à travailler à faire évoluer le concept de parité. Nous l'avons fait dans notre groupe, nous l'avons fait à l'Assemblée nationale, puisque la présence des femmes à l'Assemblée a été très relevée par les nouvelles lois et par la pratique justement de notre mouvement. Elle est faite au gouvernement, elle est faite dans la gouvernance de l'Assemblée nationale. Alors après, est-ce qu'on peut faire la parité sur un seul poste, qui est le poste de président de l'Assemblée nationale? C'est un peu compliqué. Il y a quatre candidats. D'ailleurs, il y a deux candidates et deux candidats. Moi, j'ai fait mon choix. Par fidélité et par responsabilité, je voterai. J'ai voté par correspondance, puisque je serai à Paris et non pas à Tours. Je vote pour Richard Ferrand, qui est tout à fait naturel et légitime pour accéder à ce poste de responsabilité, qui, au-delà d'un symbole, est quand même un poste les plus importants de nos institutions. Donc, si c'est Richard Ferrand qui est élu aujourd'hui, en tout cas, qui sera le candidat de notre groupe pour l'élection de mercredi, à ce moment-là, pour qu'encore plus on fasse avancer la parité, je proposerai que ça soit une femme qui prenne la direction de notre groupe. Ça sera aussi une première, là aussi. Donc, vous voyez, il faut avancer.
Et vous pensez à quelqu'un en particulier?
Non. Il y a beaucoup de talents féminins dans notre groupe pour exercer cette responsabilité.
Richard Ferrand remplit toutes les conditions pour être un président de l'Assemblée nationale respecté?
Je pense que par définition et par nature, les présidents de l'Assemblée nationale sont toujours respectés.
Oui, sauf s'ils ont éventuellement des casseroles et que ça...
Mais Richard Ferrand n'a pas de casserole. Il avait, comme vous dites, une casserole qui était jugée. Je ne conteste pas et je respecte la décision de la justice, contrairement à certains.
Merci Jean-Jacques Bridet.
Voilà. Bonne journée.